Radio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes du studio Tamani, il est 8h à Tomora Touba, dans le cercle de Bafoulabé, région de Kaï. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. C'est toujours le doute concernant la tenue des élections aux dates indiquées. Le gouvernement conditionne ses échéances à l'organisation des assises nationales. Cette décision est diversement appréciée par la classe politique. Les prix des denrées de première nécessité continuent de flamber. À Bamako, les kilogrammes du haricot et des pâtes alimentaires ont récemment connu une hausse. Les grossistes et les clients dénoncent cette situation. Plus de 4000 candidats ont débuté ce lundi les examens nationaux du BT agropastoral. Cependant, cette filière est peu connue en milieu scolaire. À la présentation, Mariam Maïga, Gagné Kanté assure la technique. Un doute plane toujours sur la tenue des élections aux dates indiquées. Le gouvernement dit attendre les conclusions des assises nationales pour fixer les dates des élections. La classe politique est partagée sur la question. Pendant ce temps, la CEDEAO demande au Mali le respect des engagements pris. Les détails avec Mohamed Ali Ag Alida.
Pour le parti CODEM, ce n'est pas pendant le jeu qu'on va changer les règles. Son président Ousseini Amion Guindo affirme que les règles avaient déjà été établies lors des assises au début de la transition.
Malgré les consensus faits au sein de la classe politique pour tenir les élections présentes sur la base d'une CENI améliorée, alors le Premier ministre tient à mettre un organe unique. Nous, notre position est très claire. Nous ne sommes pas partants pour cela. Deuxièmement, sur le délai imparti à la transition, et nous tenons effectivement au respect du délai.
Du côté du parti APR, on plaide pour une prorogation de 3 à 6 mois de la durée de la transition. Le président du parti, Omar Ibrahim Touré, explique ce choix par l'absence de réforme pour l'organisation des élections.
Le temps qui reste ne permet pas aujourd'hui de faire des réformes, de mettre en place l'organe unique de gestion des élections qui est réclamé par tout le monde et sortir de tout ça le 27 février 2022. On ne peut pas aller aux élections sans réforme. On ne peut pas faire des élections avec l'ancien dispositif, sinon nous allons retomber dans la même situation, des mêmes contestations qui certainement vont produire les mêmes effets.
En fin de mission, la CEDEAO a insisté sur la tenue des élections aux dates indiquées. Elle a également exhorté les autorités de la transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant les calendriers électoraux.
Un compte rendu signé Mohamed Ali Ag Aleida. Toujours sur le même sujet, les assises nationales de refondation ANR sont annoncées pour fin septembre. À quelques semaines de la date butoir, aucune action n'est posée dans ce sens. Et à Bamako, de nombreux citoyens affirment ne pas être au courant. Cependant, d'autres disent ne pas connaître également son utilité. Écoutons ces réactions recueillies par Sali Sissoko.
Quelle refondation? Ils vont faire quelle refondation?
Actuellement, je ne suis pas au courant. Ça permet aux Maliens de parler, d'échanger, pour tomber sur un point pour l'avancement du pays.
À travers les médias, j'ai appris. Mais quand même, ce serait bien si ça réussissait.
Au cours de ces assises-là, si on tient compte vraiment de l'intérêt national, donc ça, c'est l'une des importances vraiment. Bon, ça ne va pas être trop, comme on n'arrive pas vraiment à s'entendre. Il est bon quand même de tenir vraiment ces assises-là.
Ah, il y a une assise nationale qui se profile aussi à l'horizon. Ça, je ne savais pas. S'il y a lié quand même de faire une assise nationale, je pense que le Premier ministre est en train de passer à côté. Il y a eu déjà le dialogue national et inclusif qui a été boycotté, sinon saboté par les leaders politiques, les mêmes Choguel faisaient partie. Mais pourquoi une assise nationale encore?
Rejoignez la communauté Studio Tamani en partageant et en commentant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Les prix de certaines denrées alimentaires prisées par les populations ont connu une hausse ces derniers temps dans plusieurs localités de la capitale malienne. Le kilogramme du haricot qui était vendu entre 300 et 350 francs CFA est passé à 600 voire 800 francs CFA, ont indiqué des consommateurs. Le carton de pâtes alimentaires de 500 grammes passe de 600 à 800 francs CFA, à 800 francs CFA plutôt. Des grossistes accusent le manque de contrôle de l'État sur le prix des produits. Abdoulaye Kassé s'est rendu au marché de Sébénikoro. Écoutons son reportage.
Certains consommateurs de Bamako continuent de dénoncer la cherté des prix des produits de première nécessité. Ces derniers estiment avoir espéré à une baisse, mais assistent à une augmentation sans fin.
Ayez pitié de nous, les riz, les mille, le poisson et même la viande, tout est cher.
Puis les gens s'en profitent de la transition pour dire que c'est la transition qui ne travaille pas bien.
Mon mari m'a donné 10 000 francs. Quand tu es venu au marché là, et les 10 000 francs là, ça va finir.
Les kilos de la viande avec os est à 3 000 francs et sans os est à 3 500. Les pays voisins ont la viande à moindre coût. Je me demande quel est le rôle exact de nos autorités.
De leur côté, des grossistes indexent des usines de production. Selon eux, ces dernières ne cessent d'augmenter le prix d'achat. Ces commerçants dénoncent un manque de contrôle et suivi des autorités en charge du commerce.
Pastami, spaghetti mama, pasta roma, toutes ces pâtes alimentaires ont une seule provenance, les usines. Donc si les prix augmentent à partir de ces usines, ça va se sentir sur toute la chaîne. C'est la loi du commerce. Il y a des usines qui sont installées ici, d'autres ailleurs. Chaque jour, ils augmentent les prix.
En attendant, les consommateurs prennent leur mal en patience.
Sur un tout autre sujet, ils sont plus de 4000 candidats répartis entre 21 centres ayant débuté ce lundi les examens nationaux du brevet de technicien agropastoral au Mali. L'agropastoral est une filière porteuse. C'est pourquoi le gouvernement du Mali lui accorde une importance capitale, estiment les autorités nationales. Cependant, des observateurs disent que moins d'efforts sont fournis par le gouvernement dans le domaine. Les détails avec Aboubakrine Agmohamedine Yatara.
Ici à Bamako, ils sont nombreux à ignorer l'existence des écoles évoluant dans l'agropastoral au Mali. Certains estiment que cela est dû à une absence de conseils d'orientation des élèves.
Nous savons qu'il y a parfois des bénévoles qui forment des gens dans ce domaine, mais nous ne savons pas qu'il y a des écoles dans ce cadre-là.
Donc on est très mal orienté. Tout le monde pense que la réussite, c'est à l'université, quoi, accumuler les grands diplômes et autres là. Alors qu'on minimise le secteur professionnel, quoi.
Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'importance de l'agropastoral. Une fois passé le DEF seulement, ils ont dit qu'il n'y a pas de sérieux.
Un avis partagé par certains pédagogues. En plus, ils affirment qu'au-delà de la visibilité, les centres de formation en agropastoral sont insuffisants. Il n'y a que 7 au Mali. Morike Dambélé, enseignant-chercheur à l'université de Bamako.
Leur capacité de formation ne dépasse pas 2000 élèves et c'est le niveau secondaire. Donc, ça veut dire que la responsabilité de l'État est tout à fait engagée. Il n'y a pas assez de publicité autour de ces structures. Nous devons refonder notre système en mettant l'accent sur les secteurs porteurs de développement.
Des observateurs recommandent un investissement intelligent dans l'agropastoral afin de lutter contre le chômage.
Parlons à présent de l'hivernage. La saison de pluie de cette année va se proroger jusqu'en novembre prochain. L'annonce a été faite par le service météorologique du pays. Selon Mali Météo, les prévisions en quantité des pluies sont prometteuses dans la plupart des régions. Cependant, certains paysans s'inquiètent de l'installation tardive des pluies. Le point avec Omar Waigalo.
Cette année, l'installation tardive des pluies n'est pas uniforme dans les pays. Si dans certaines zones, les paysans parlent de l'installation tardive, les services météorologiques de son côté parlent des séquences de pluies assez longues. Madame Diabaté Fatmata Sango, chargée de communication au service météorologique.
Dans l'observation, c'est que ces pluies se sont installées précocement, mais il y a eu des pauses de sécheresse assez longues. C'est pas parce que les saisons sont installées tardivement. Donc, c'est des séquences qui ont été assez longues au début de la saison. Les séquences qui pouvaient aller jusqu'à 9 jours sans pluie en début de saison.
À Kadjolo, les cultivateurs affirment que cette installation tardive pourrait impacter les rendements dans la localité.
Il n'a pas plu très tôt, ce qui a fait que les gens ont semé en retard. Mais depuis qu'il a commencé à pleuvoir, c'est de la pluie en continu.
Par rapport à la culture, les gens commencent par l'arachide du 15 au 20 mai. Ils sèment de l'arachide, mais ils n'ont pas pu le faire cette année. Au début quand même, les gens ont eu des difficultés par rapport à la semence. On a semé, mais ça n'a pas marché. Donc on a été obligé de recommencer.
Les prévisions en récolte sont aussi inquiétantes dans le nord du pays à cause de l'arrivée tardive des pluies. Par contre, elles sont prometteuses dans la plupart des régions sud.
Un compte rendu signé Omar Waigalo, évolution de la maladie à coronavirus. 7 nouveaux cas de COVID-19, 5 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. À ce jour, la situation cumulée est de 14 949 cas positifs pour 14 140 patients guéris et 542 décès. Place maintenant à la rubrique Actu Covid présentée par Moussa Malé-Sissoko.
Mesdames et messieurs, bienvenue aux informations sur la maladie à coronavirus. Comme tous les mercredis et jeudis, nous vous proposons une série de questions posées par des auditeurs. Des réponses sont données par des spécialistes des maladies infectieuses.
Bonjour docteur. Pendant cette période hivernale, les enfants sont fréquents dans les rivières. Encourent-ils un danger de contamination à la COVID-19?
Oui, l'eau qui baigne est stagnante. C'est vrai que ce n'est pas approprié pour la baignade et ce n'est pas approprié pour qu'on boive. Déjà, quand on dit les enfants qui baignent, ce n'est pas un seul enfant qui va baigner. Ça aussi, c'est quand même un coin de regroupement. Mais une chose est sûre, la maladie est contaminée plus en interhumain et par voie aérienne. Il n'a pas été décrit que celui qui baigne va laisser son virus dans l'eau et puis l'autre vient se contaminer dans l'eau. Bon, on ne peut pas vous donner des explications plausibles à ce stade.
Allô docteur, la toux et l'écoulement nasal peuvent-ils être signes de la COVID-19?
L'écoulement nasal, ça peut être effectivement autre pathologie, ça peut être une rhinite allergique, mais dans un contexte épidémique, il faut aller vous faire tester, parce que si ça accompagne de fièvre, avec la fatigue, il faut les tester.
Bonjour docteur, est-ce qu'un nouveau ne peut contracter la maladie à coronavirus?
Bien sûr, il y a des études qui ont montré qu'il y a des enfants qui sont nés avec le virus même. C'est-à-dire que les mamans ont transmis la maladie à ces bébés-là qui sont nés. Et il y a des bébés qu'on a trouvés qui ont eu la maladie. Mais généralement, les enfants, les nouveaux-nés-là, ils sont infectés par les parents.
Comment éviter la COVID-19 dans les bars et restaurants avec les mêmes cuillères et assiettes utilisées?
On a dit dès le début, il faut arrêter les regroupements parce qu'on sait que si on fait des regroupements au niveau des bars, des restaurants, il y a beaucoup de monde, donc le virus se transmet facilement et on a la possibilité de transmettre à beaucoup de gens. Il faut éviter ces rassemblements-là, ça c'est un. Et de deux, il faut toujours avoir une aseptique, c'est-à-dire que laver les assiettes avec l'eau de javel ou du savon ou bien l'eau chlorée, ensuite désinfecter les assiettes, les cuillères, les fourchettes, tout ça là.
Ainsi se referme cette page d'informations sur le coronavirus. Merci pour votre fidélité au programme de Studio Tamani.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Commençons le tour de notre actualité régionale par CAI, où une campagne de sensibilisation sur l'importance du paiement des impôts et des taxes sociales s'est tenue ce lundi à Tringa Marina, cercle de Yelimane. Il s'agissait d'inviter la population à s'acquitter de ce devoir civique. Cette activité a été organisée par Merci Corps à travers le projet LAFIA et en partenariat avec Think Peace sur le financement de l'USAID. Terminons notre tour de de l'actualité régionale par Sikasso, où 3 morts et 7 blessés, c'est le bilan d'un accident survenu lundi aux environs de 5h du matin sur l'axe Sikasso-Bamako. Des témoins affirment que les blessés ont tous été admis à l'hôpital de Sikasso. Pour eux, cette collision entre un car et un minibus serait due à une erreur humaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Meiga. Gagné Kanté a assuré la technique. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car tout juste après le magazine, vous aurez la version en bambara avec Juliette Koulibaly.
Studio Tamani.